Radio FM Plus est partenaire du festival Montpellier Danse. À cette occasion, nous rediffusons chaque jour une conférence enregistrée au jardin de l'Agora par l'équipe du festival. Aujourd'hui, Bernardo Monté au micro d'Agnès Izrin.
Donc Bernardo Monté, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Montpellier Danse pour créer Carnet.
Oui.
C'est une pièce qui s'inspire en fait des Indiens de Terre de Feu que vous avez rencontrés à travers l'œuvre d'un ethnologue allemand.
Oui.
Dont je me souviens Martin plus Goussinde. Du nom comme ça.
Martin Goussinde.
Voilà. Qui a laissé des traces photographiques, notamment au moment où il sentait que toute cette civilisation allait disparaître totalement. Vous, qu'est-ce qui vous a intéressé en fait dans ces peuples et dans leur disparition?
Moi, c'est un peu cette notion de tremblement comme peut l'évoquer Édouard Glissant, qui est un philosophe martiniquais qui a beaucoup enseigné aux États-Unis, et comment ce tremblement manifeste de notre fragilité, de notre porosité au monde. Et comment ces photos ont pour moi évoqué un peu ce tremblement. C'est-à-dire que Édouard Glissant est dans cette logique de croire que le monde aujourd'hui tremble, mais il tremble de ses tensions, de ses angoisses, de ses inquiétudes, de ses bonheurs aussi, et qu'une pensée tremblante est peut-être la garantie de pas affirmer les choses. Je pense qu'on est dans une période où le doute est difficile à supporter et qu'on a envie de certitude et que parfois la certitude peut amener peut-être des modes de vie un peu fermés. Et je pense qu'on est dans des logiques de fermeture de frontières, des fermetures de pensée et qu'il est urgent de ralentir. Je pense qu'il faut absolument qu'on ouvre des espaces de ralentissement pour que toutes ces questions-là puissent être posées. Et la danse est peut-être un des lieux où ces questions-là peuvent être tranquillement posées. Donc, Martin Goussin, juste pour évoquer un peu le parcours, était protestant, missionnaire, pasteur, et a photographié, donc c'est dans les années 20, 1920, ces peuplades. Et il n'en restait que 40, c'est-à-dire qu'au moment où il a pris ses photos, on était face à un génocide. Et au lieu de photographier la décrépitude de cette tribu, il a décidé, avec leur accord évidemment, parce qu'ils parlaient leur langue, il a décidé de les filmer, je dirais, de les photographier à une période antécoloniale, comme si la colonisation n'avait pas eu lieu. Donc on est dans une sorte de c'est pour ça qu'on a une sorte d'espace théâtral, une sorte de narration par ce rituel, donc qui s'appelle le Ein, qui est un rite de passation entre l'adolescence et l'adulte. Et il y a un problème, c'est que j'aurais aimé vous montrer quelques photos, mais les éditions Xavier Barral ont été assez sévères sur le fait que ces photos ne pouvaient pas être montrées de n'importe quelle manière, etc., ce que je peux comprendre. Et le livre, je l'ai ici, mais ce serait trop loin pour vous montrer. Mais ce sont des rituels où ils sont tout nus, et ils ne sont que ocre, et ocre rouge et blanc, et avec des dessins sur leur corps qui sont dignes d'un concept contemporain des plus hauts. Et du coup, ce qui m'a, moi, attiré dans ces images, c'est évidemment pas de reproduire ni d'interpréter ces photos, mais de plutôt traduire ou essayer de questionner par ce qui le langage chorégraphique, c'est-à-dire le temps, l'espace, le silence, comment avec les danseurs, les musiciens, les plasticiens, on a un petit peu interrogé ces photos et aussi ce qui se passe à ce moment-là, c'est-à-dire la disparition d'un peuple. Et avec aujourd'hui, hier, hein, voilà, pardon, la disparition de Simone Veil, on a pu constater, je pense, comment une personne peut complètement aujourd'hui tenir, défendre et amener une vision d'un vivre ensemble Et je trouve que ces photos et Édouard Glissian, par le fait de ce concept de tremblement, m'a amené un peu à me poser ces questions-là de qu'est-ce que c'est aujourd'hui vivre ensemble.
Est-ce que, alors moi, je vous conseille quand même d'aller jeter un œil sur Internet parce qu'on les voit quand même, ces photos. Alors, on les voit pas toutes, mais et c'est vrai que c'est absolument magnifique, vraiment magnifique. Par rapport à ce que vous venez de dire sur la colonisation, la décélération, enfin l'urgence à décélérer, au fond, est-ce que nous-mêmes, on n'est pas dans un monde en train de disparaître par une espèce de colonisation rampante qui serait la mondialisation?
Alors, justement, je pense que la mondialisation a beaucoup à faire avec peut-être il y a une circulation beaucoup des biens, des biens matériels. Je pense qu'à un moment, là, dans l'histoire de l'humanité, on a fait le choix du matériel au détriment du spirituel. Et c'est peut-être ce vers quoi aujourd'hui on est confronté. Et on arrive peut-être au bout de cette logique-là. Et on est hyper connecté. Et à la fois très seul. On est à la fois des consommateurs, mais on est aussi à la fois consommés. Et je pense qu'on est dans cette stature très troublante de ne pas savoir exactement, je dirais, de quelle manière se comporter avec l'autre. Et la question de la mondialisation, c'est pour ça que j'aime bien le terme de Glissant qui parle de mondialité. C'est une poétique de la relation à travers le monde. Et cette poétique de la relation, je pense que la relation est peut-être aujourd'hui l'universel qui est à mettre en avant et que, comme il aime dire, c'est comment se changer en échangeant avec l'autre sans se perdre ni se dénaturer. Et je trouve que cette question de se changer en échangeant avec l'autre, c'est la vraie révolution de ce prochain siècle. Et parce qu'on n'a pas on n'a pas d'autre choix. On est dans des espaces où les migrations sont très fortes, où les communications sont extrêmement rapides, et en même temps, il y a une vitesse humaine organique qui, elle, n'a pas changé. Donc, comment être dans ces confrontations où il y a une sorte de violence de vitesse entre ce que je perçois et mon organique? Et cette chose-là est absolument incontournable.
Et alors, comment l'avez-vous traduit dans la chorégraphie?
Comme je le dis, par du temps, par du silence, en même temps, c'est évidemment, c'est comment cette mise en mouvement par à la fois les danseurs, parce il y a une chose qui, là, tout à l'heure, m'a touché. Il parlait de Françoise Adrée. Françoise Adrée a été celle qui m'a donné la bourse pour aller au Japon il y a un certain nombre d'années. Et c'était la curiosité, je pense, à l'époque, que j'avais d'aller ailleurs et de rencontrer peut-être l'autre autrement. Et peut-être que cette pièce est manifeste de ce voyage-là.
Au niveau scénographie, on trouve des traces finalement de... Non.
Non, d'une certaine façon, oui, c'était un sol de paille, c'est du raffia. Et le raffia était un peu je dirais la matière dont il se couvrait avant de pratiquer le rituel. Donc on a gardé cet élément-là, dont on a fait je dirais une figure assez conceptuelle, assez graphique, presque zen dans son apparence, et qui après évolue au cours du spectacle.
Et musicalement?
Musicalement, c'est Pascal Le Gall, une personne avec qui je travaille depuis bientôt 6-7 ans, et qui est un musicien électroacoustique, comme on dit, et qui bon, m'accompagne sur cette création. Ce serait compliqué de définir sa musique. Je pense que c'est une musique assez. Comme il aimait dire, c'est que c'est une musique qui laisse la place à la danse. Parce que souvent, je pense qu'il y a un pléonasme très courant dans la danse où on a, pour moi, deux langages. On a le langage du corps, qui est un langage très musical, et la musique, et ça va. Et parfois, il y a une sorte de doublon. Et il aime dire ça, et je trouve assez juste, cette façon de laisser la place à la danse, tout en étant présent.
Vous l'avez trouvé comment, vous, Goscinny, en fait? Comment c'est arrivé?
J'avais une image de lui sur mon bureau pendant 10 ans, sans savoir d'où elle provenait. Et un jour, en allant dans une librairie, parce que j'aime beaucoup lire, et je suis souvent dans les librairies, Je découvre son ouvrage, édité par Xavier Barral. Et en première page de couverture, il y avait cette photo que j'avais pendant 10 ans sur mon bureau. Donc évidemment, j'ai feuilleté le livre et le miracle s'est produit. Je dirais, c'est j'ai tout de suite adhéré évidemment à cette histoire et j'ai voulu en faire un travail qui correspondait aussi pas mal à certaines de mes préoccupations, qui sont celles de effectivement de la disparition. Moi, mais je ne connais ni mes grand-mères ni arrière-grand-père, etc. C'est-à-dire que mes ancêtres, c'est mon père et ma mère. C'est-à-dire comment à un moment créer des racines, c'est créer une histoire, si ce n'est par l'imaginaire. C'est-à-dire qu'à un moment, la question de l'origine, elle s'invente. Et pour un artiste, je ne pouvais pas faire autre chose que de la danse, de toute façon. C'est-à-dire essayer de passer par. Je suis très admiratif de Hans quand je vois l'aisance verbale avec laquelle qu'il a et le charisme avec le public. Je trouve ça. Je suis admiratif parce que c'est quelque chose avec laquelle j'ai beaucoup de difficultés, je dirais.
Bernardo, merci beaucoup.
Merci à vous et à demain soir.
À l'instant, Bernardo Monté au micro d'Agnès Iserine. Retrouvez une nouvelle conférence demain 20h sur Radio FM+.